Vous m'appelez Albert et vous avez raison. Vous me tutoyez, vous avez raison. Hein? Voilà, c'est moi. Voilà. Mais juste pour rappeler, mon nom de famille, c'est Richardson. Vous savez ce que ça veut dire, Richardson? En anglais, c'est fils de Richard. Voilà. Et en fait, ce matin, je voulais parler avec vous sur le fait que dans la parole de Dieu, on découvre aussi plein de noms qui ont un sens. Et en fait, Dieu lui-même s'est donné tout au long de la Bible plusieurs expressions liées avec son nom et qui donnent un sens à ce qu'il est dans sa révélation au fur et à mesure dans la parole de Dieu. Vous voyez, le nom identifie, le nom désigne, caractérise une personne. Dans ce qui est humain, par exemple, quand on pense à Isaac, ça signifie quoi ? Rire. Hein? Parce que les circonstances ont fait que, à sa naissance, il y avait toute une circonstance qui a poussé ses parents à l'identifier avec ce nom-là. Jacob, qui signifie trompeur, le supplanteur, c'est pareil. Moïse, ça signifie sauver des eaux. Donc chaque nom, quoi, du moins une bonne partie des noms, quoi, a un sens. Et puis même dans la vie, dans les noms, il y a des fois associé quelques caractéristiques. Par exemple, on parle d'Alexandre le Grand, hein, on parle de Richard Cœur de Lion. Ça donne à la personne une connotation de ce qu'il exprime dans sa vie. Dans la Bible, nous voyons dans le Nouveau Testament, par exemple, Simon le Zélote. Nous savons de quoi il s'agit, il faisait partie d'un groupe politique, etc. Voilà. Donc, Dieu se révèle lui aussi dans la parole. Une fois, dans Exode, au chapitre 3, quand Moïse a été appelé par Dieu pour aller à la tête du peuple hébreu et le faire sortir de l'Égypte, Moïse était tellement décontenancé par cette grande tâche, il a dit, mais comment je vais me présenter devant le peuple et comment pourrais-je dire la personne qui m'envoie, le Dieu qui m'envoie, comment il s'appelle, alors révèle-toi encore plus. Et c'est là que Dieu a dit, mon nom, je m'appelle Je suis. Et tu diras au peuple, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé pour vous libérer de sa part. Je suis. Ce terme dans le texte hébreu est assez imprononçable. Il est tellement... Il désigne Dieu et c'est finalement, même dans la Bible française, eh bien, ce nom a été remplacé, en quelque sorte traduit, et dans l'essentiel de l'Ancien Testament, ce nom est, dans notre Bible, traduit par le terme l'Éternel. Je suis l'Éternel, celui qui a la vie en lui-même. Des fois, c'est traduit aussi par le Seigneur, Adonai. Hein. Et dans d'autres versions françaises, on a gardé un nom en y ajoutant quelques voyelles, Jéhovah, ou en ajoutant différemment les voyelles, ça donne aussi Yahvé. Donc voilà, bon, ça c'est pour donner une introduction. Mais dans la Bible, le nom de Dieu, tel que nous venons de le dire, au fur et à mesure, de temps à autre, pour se révéler davantage dans ce qu'il est, Dieu ajoute un mot supplémentaire. comme tout à l'heure je parlais d'Alexandre le Grand, eh bien Dieu a ajouté ici et là quelques noms. Peut-être que dans, au fil de nos rencontres de temps à autre, peut-être que nous pourrions voir d'autres noms, mais c'est juste pour citer, par exemple, Yahvé Tsukenu. Bon, je ne vais plus parler dans les termes qu'on ne comprend pas, mais il y a la révélation de le Seigneur ma justice, l'Éternel ma justice, l'Éternel qui purifie, l'Éternel ma paix, Yahvé Shalom, le Seigneur, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon berger, l'Éternel des armées, nous avons chanté, Jéhovah Tsekenu, Sabaoth, plutôt. Et ce matin, on va regarder un nom particulier révélé, et nous allons le lire dans Ézéchiel au chapitre 48. Ce nom est donné, Ézéchiel chapitre 48, c'est le dernier verset d'Ézéchiel décrivant la nouvelle Jérusalem. Elle est dit, dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Yahvé Shama, le nom du Seigneur, ajouté avec un mot qui donne un nom particulier, l'Éternel est ici. En fait, donc on va s'arrêter à cette notion particulière, ce nom prophétique révélé, l'Éternel est ici. En fait, ce nom parle de la présence activement favorable de Dieu. C'est différent par rapport à ce que nous connaissons de Dieu que quand nous parlons de l'omniprésence du Seigneur. Parce que c'est vrai, nous comprenons que Dieu, s'il est Dieu, et il est Dieu, il est vraiment partout. C'est ça ce qu'on appelle l'omniprésence. Et par exemple, dans le psaume 119, le 139, le psalmiste dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit ?» L'omniprésence de Dieu. « Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, même en Polynésie française, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Donc ce verset, ce passage nous montre que Dieu est partout. Et ça, c'est une réalité. C'est un attribut absolu de Dieu. Il est partout. Qu'on croit en lui ou qu'on ne croit pas en lui, qu'on marche avec lui ou qu'on ne marche pas avec lui, Dieu est partout. La Bible nous dit que l'univers tout entier ne peut pas contenir Dieu. Il est partout. Ça, on parle de l'omniprésence de Dieu. C'est uni au Seigneur. Mais quand ce matin, nous voulons parler de ce nom révélé au peuple de Dieu, Jéhovah Shama, l'Éternel est ici. C'est une toute autre notion de la présence de Dieu. Ce n'est pas cette présence impersonnelle en quelque sorte, mais une présence quand même. Là, Jéhovah Shama, c'est une présence qui nous est favorable, activement favorable. Et ça, ce n'est pas accordé à tout le monde, en quelque sorte. Ce n'est pas comme l'omniprésence du Seigneur, à qui la présence favorable, personnel, est accordé. Eh bien, nous le voyons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, sa présence favorable est seulement réservée à ceux qui sont à lui. Quand Jésus, qui est Dieu, et là, Dieu dans la chair, quand il marchait sur la terre des hommes, il pouvait dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Sa présence particulière, c'est toute une différence. Je suis avec vous. Avec qui ? Avec ceux qui marchent avec le Seigneur, avec ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Présence particulière. On est les enfants chouchous du Seigneur, les gâtés du Seigneur. Tout le monde peut entrer dans cette catégorie. C'est un choix. Dieu veut que nous soyons tous ses gâtés, tous ses chouchous. Mais ce n'est pas toujours le choix des uns et des autres. Pour nous, nous l'avons fait. Et c'est un privilège, une grâce. Regardez dans Matthieu chapitre 20, chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, en plus de mon omniprésence, Jésus dit, Dieu dit, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alors si nous réalisons cela, ça veut dire que ce matin, ce n'est pas simplement que Dieu est... mais Dieu est là, spécialement, favorablement. C'est unique à ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui s'identifient avec le Seigneur, sa présence particulière, Jéhovah Shammah. C'est tellement important de vivre cette présence favorable, particulière de Dieu. C'est ce qui nous fait la différence. Parce que, en fait, même en France ou ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de gens qui peuvent croire en Dieu. Beaucoup de gens disent, mais je crois en Dieu. Mais en fait, ils veulent dire, je sais que Dieu existe. Alors, il y a une différence entre savoir que Dieu existe, savoir même qu'il est témoin de notre vie, et avoir sa présence à nos côtés parce que nous avons choisi de nous associer à lui et de marcher avec lui. Sa présence favorable est tellement indispensable tout au long de notre cheminement, de notre pèlerinage. Nous le voyons en lisant Exode au chapitre 33, quand Moïse pouvait converser avec Dieu dans l'intercession pour le peuple qu'il conduit. Et Moïse dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous. C'était après l'histoire du veau d'or, où le peuple s'était détourné de Dieu et Moïse a plaidé la cause en disant, malgré tout, ne nous abandonne pas. S'il te plaît, Seigneur. Et il dit, écoute, c'était dans le désert, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici alors. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, toi et ton, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand tu nous accorderas ta présence spéciale, quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit alors à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse savait, comprenait cette différence. Elle dit, « Moi, je ne veux pas partir d'ici si tu ne m'accordes pas ta présence. Je ne veux pas conduire le peuple plus loin si tu ne nous accordes pas ta présence spéciale, favorable. Seigneur, Seigneur, j'ai tellement besoin de cela. Et en écho avec Moïse, nous pourrions dire la même chose. Nous pourrions dire la même chose. Sa présence est tellement indispensable. Parce que sans sa présence à nos côtés, eh bien, ce sera vraiment le désarroi pour nous. C'est ce qu'a expérimenté le psalmiste dans le chapitre 30 des psaumes, au verset 6. On voit là un croyant qui a marché depuis un certain temps avec le Seigneur et tout ça, et qui prend de l'assurance. Et il disait, il raconte une expérience, il disait, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais, Éternel. Par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Je ne chancellerai jamais. » Ça nous rappelle un petit peu, hein, Pierre. Et ça peut nous rappeler nous-mêmes aussi, peut-être, des fois, hein, si on se prend un petit peu trop dans le sens de notre capacité personnelle sans l'aide du Seigneur. Il dit, ben, « Seigneur, tu m'as béni jusqu'à maintenant. Moi, je ne chancellerai jamais. Ta grâce a affermi ma montagne. Tu cachas ta face. » Et je fus troublé. Soudain, ta présence, est en quelque sorte, le sens de ta présence m'est retiré et je me suis senti complètement désorienté. La différence quand il y a la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de cette présence favorable de Dieu qui veut être pour nous, pour notre faveur? Eh bien, ce qui nous sépare de sa présence favorable, d'après vous, c'est quoi? Ah oui, vous avez raison. Regardons dans le psaume 51, quand David, un croyant aussi, a marché avec le Seigneur et puis à un moment donné, il s'est laissé entraîner dans le péché, dans l'adultère, dans la tromperie, etc. C'était une vraie descente et au lieu de se ressaisir, il a cherché à cacher cela et ça a duré au moins une année. Hein, comme ça, c'était vraiment un croyant bien, bien malheureux. Il n'exposait pas cet état intérieur de sécheresse et de misère spirituelle. Personne autour de lui ne le voyait, mais Dieu le voyait. Et finalement, Seigneur a insisté auprès de lui pour qu'il se ressaisisse. Et après que le prophète lui ait parlé de la part du Seigneur, cet homme soudain s'est senti misérable et il est tombé devant la face du Seigneur pour se repentir. Et il pouvait dire ceci, « Ne me rejette pas, loin de ta présence. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Oh, j'avais ressenti cela. J'avais ressenti pendant tout ce temps où j'ai cheminé dans des choses qui n'étaient pas bonnes. Ta présence, le bonheur, le baume de ta présence, la force et la joie que j'en tire, eh bien, je ne l'avais plus. Et j'ai envie de le retrouver, cela. J'ai envie. Voyez, le péché nous enlève ce sens du bonheur, de la présence favorable de Dieu à nos côtés. On se sent si mal à l'aise. Parlons encore du péché. Regardons dans Juges, au chapitre 16, au sujet de Samson. Lui aussi, c'était un croyant, un serviteur de Dieu même, un dirigeant du peuple de Dieu, un juge. Et cet homme, Dieu lui avait donné la grâce d'être là où il est. Et on doit être toujours leader en ayant un cœur humble de serviteur. Et c'est que l'orgueil vient rapidement dans nos cœurs si nous ne veillons pas face à la réussite. Et vous savez que Samson est particulièrement connu pour ses muscles, sa force, son autorité, et tout cela lui est monté au cœur, et il n'a pas veillé sur sa vie spirituelle, sur ce qui est moral, ce qui est droit, les qualités de pureté que Dieu recherche en chacun d'entre nous au-delà de la force physique. Et il s'est laissé entraîner, lui aussi, vous savez, comment dans l'immoralité. Et à un moment donné, Delilah, qu'il avait attachée parce qu'elle avait séduit cet homme, elle dit alors, à un moment donné, tandis que Samson dormait et que chaque fois il triomphait des Philistins, des ennemis, elle dit alors, « Samson, Samson, les Philistins sont sur toi !» Alors il se réveilla de son sommeil et il se disait, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai !» Mais il ne savait pas que la présence favorable du Seigneur s'était retirée. L'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Quelle déchéance! Quelle déchéance! Perdre la marche avec le Seigneur, la présence chaleureuse de son Dieu à ses côtés pour le soutenir, parce qu'il a choisi un chemin où le Seigneur ne pouvait pas l'accompagner. Et quelle déchéance d'avoir maintenant les yeux crevés, d'être lié dans les chaînes et en prison. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ceux qui ont connu en premier lieu la présence favorable du Seigneur. Ça peut même arriver à un ensemble de personnes, comme le peuple d'Israël. On peut le lire aussi dans Nombre au chapitre 14. Vous savez, dans l'histoire de ce moment où les espions ont été envoyés pour explorer Canaan, et quand ils sont revenus, et selon leur rapport, le rapport de 10 d'entre eux, le peuple a été tellement découragé qu'ils se sont mis à critiquer Dieu, à tourner le dos au Seigneur et à oublier comment Dieu venait de les sortir de l'Égypte, de l'esclavage, et là, face à Canaan, avec les géants qui habitent, alors que c'est le pays que le Seigneur leur promet, bien, ils ont vraiment blasphémé contre Dieu dans leur attitude. Alors, Dieu n'était pas d'accord avec tout cela. Et Moïse a dit au peuple, Dieu a été vraiment blessé, bouleversé, touché par votre attitude. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et finalement, le peuple fut dans une grande désolation. Alors, ils veulent réparer, mais pas vraiment dans la manière de cœur contrit, mais en voulant par leur propre force réparer les choses. Alors, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, alors nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Et Moïse dit, mais pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. La présence favorable, Dieu est toujours là,
Dieu est toujours là, même quand on a péché, Dieu est toujours là. Mais la présence favorable n'a pas encore été rétablie. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Mais ce peuple, au lieu de rentrer dans la pensée de Dieu, dans la manière de Dieu, avec des cœurs contrits et réparés selon le Seigneur, et au lieu de faire l'effort, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites. Les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à la ville d'Horma. Voilà. C'est dommage quand nous avons la bénédiction de la faveur particulière de sa présence et que par certaines attitudes de cœur et de vie, nous perdons cette grâce, cette faveur. Bien sûr, on peut la retrouver d'une manière qui serait celle que Dieu demande, dans une repentance particulière et dans une réparation particulière. Donc, qu'est-ce qui nous sépare de cette présence favorable du Seigneur, qui rend inefficace cette faveur de sa proximité à notre égard? C'est le péché. Quelque part, c'est aussi, ça peut être moindre, mais c'est pris par, on peut lire dans Luc au chapitre 24, verset 15, ça peut être moindre, mais ça peut aussi nous faire perdre le bénéfice de sa présence quand nous sommes tellement découragés, tellement dans la dépression et tellement pensant que Dieu nous a abandonnés, que même quand sa présence favorable est à nos côtés, nous n'en tirons pas profit. Quand il nous est dit au sujet des deux disciples d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient, comment, empêchés de le reconnaître. Ils avaient perdu de vue les promesses, l'enseignement du Seigneur, quand Jésus avait parlé qu'il devait mourir, qu'il allait ressusciter, ils avaient tout oublié. Et en fait, ils étaient sur le chemin de retourner en arrière, de retrouver leur vie ancienne, alors qu'ils étaient appelés dans une autre destinée par le Seigneur. Et la présence favorable du Seigneur était à leur côté en la personne de Jésus. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte. L'incrédulité était là, bloquant leurs yeux. Voilà comment nous pouvons perdre le bénéfice de cette révélation de Dieu particulière pour nous, Jéhovah Shammah, la présence favorable, activement favorable de Dieu en notre faveur. Prendre conscience de la présence du Seigneur change soudain, quand nous prenons conscience de cela, cela va changer notre vision de la vie et nos attitudes. Par exemple, on peut lire dans Genèse au chapitre 28 l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob, tout à l'heure on avait parlé de Jacob le trompeur, il trafiquait un peu, il avait une façon un peu élastique de voir l'intégrité, l'honnêteté, si on pouvait un peu tricher un peu pour réussir dans la vie, pourquoi pas, c'est la façon de faire aussi de notre nature humaine et de notre monde. Et maintenant, Dieu nous a réveillé notre conscience et nous a rendu beaucoup plus sensibles. Et il y a des signes clignotants qui s'allument de suite quand on sent qu'il y a un peu de trafic pas tout à fait correct, qu'il y a un peu de compromis là-dedans. En tout cas, voilà, la conséquence, c'est que Jacob, il se retrouve tout seul, dans la nuit, Et Dieu se révèle à lui au travers d'un songe. Et lui qui savait que Dieu existe, il avait été élevé dans une famille de croyants. Il avait vu des expériences formidables dans le cadre de la famille. Mais bon, peut-être c'est comme pour certains qui sont nés dans la foi et dans les familles de croyants. On connaît la chose. On sait que Dieu existe, mais on n'en prend pas vraiment conscience d'une manière personnelle. Et ce jour-là, seul à seul avec Dieu, il fait une rencontre au travers de cette révélation du Seigneur. Dieu lui dit, et il veut faire grâce à nous aussi, en se révélant à Jacob et en lui disant, voici, tu sais, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et quelle est la conséquence? Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quelque part, c'était sa première expérience personnelle, en quelque sorte, avec le Seigneur. Mais je pense que quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous réalisons que Dieu nous fait la faveur de sa présence à nos côtés, il y a une réaction au-dedans de nous. C'est ce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel. Non pas la peur du coup de bâton ou n'importe, mais la crainte respectueuse de savoir que celui qui m'accompagne, qui me donne sa présence, qui est compagnon de ma vie, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur. Et cela me permet d'avoir une conscience éveillée pour ne pas aller là où il ne faut pas y aller, faire ce qu'il ne faudrait pas faire, qui déshonore le Seigneur. Et au fond de moi, de pouvoir toujours me dire, mais qu'en pense le Seigneur? Qu'en penses-tu, Seigneur? Est-ce que le Seigneur serait d'accord avec moi dans l'activité que je suis en train de faire? Dans le choix de mes options, est-ce qu'il est avec moi? Est-ce que je maintiens toujours sa faveur, sa présence à mes côtés? Et ainsi, prendre conscience de sa proximité nous permet d'avoir cette crainte respectueuse, d'amour pour le Seigneur. Prendre conscience de la présence de Dieu, qu'il est avec nous et qu'on est son chouchou et qu'il est en quelque sorte avec nous et qu'il nous défend, ben nous donne de l'assurance et de la fermeté face à des situations où nous pourrions être déstabilisés. Par exemple, on peut lire dans Hébreux chapitre 11, verset 27, au sujet de la sortie de l'Égypte par Moïse, suivi du peuple. Il nous est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il y avait des menaces, c'était terrible, mais il n'était pas effrayé car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, comme réalisant que la présence favorable de Dieu est là. Et qu'est-ce qui peut m'arriver, hein? Qu'est-ce qui peut m'arriver quand le Seigneur est avec moi, hein? Les menaces, les pressions, non. Je sais que tel chemin est juste et que le Seigneur va avec moi et j'irai. C'est bien de pouvoir connaître au fond de notre cœur, prendre conscience toujours, et faire tout pour que cette présence favorable soit avec nous. Parce que ça va nous donner de la force pour avancer au milieu de la tempête. Prenons le psaume 23, verset 4, où il nous est dit, la brebis que nous sommes, la brebis du Seigneur, lui le bon berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Bon, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et je le sais, je réalise cela. Je prends conscience que tu es avec moi. Je ne choisis pas de passer par telle saison, telle difficulté. Mais enfin, j'ai conscience que tu es avec moi. Ta présence favorable est là. Quand je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. De savoir que le Seigneur est avec moi. Dans le passage de ma vie, dans tel moment, dans telle circonstance, ça, c'est tellement différent. Nous, chrétiens, nous avons les mêmes épreuves, mais alors les mêmes épreuves que ceux du monde. Les mêmes difficultés. Et des fois, nous passons par des moments où nous nous interrogeons, mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Et c'est comme ça. C'est là la diversité de cette vie ici-bas, avec les joies et les peines, avec les délivrances et quelquefois les non-délivrances. Mais quelle différence avec le monde, même quand le monde sait qu'il y a Dieu. Nous, on sait que sa présence est favorable, particulière, chouchoutée par le Seigneur, sa présence avec nous. Cela me rassure. On peut lire aussi dans 1 roi au chapitre 19. Quand on reconnaît sa présence sans se tromper, des fois, on peut imaginer certaines choses pour dire, ah ben ça, ça prouve que Dieu est là. Mais des fois, on se trompe. Regardez ce qui se passe pour Élie. Après cette période de grosse pression, quand il devait affronter sur le mont Carmel 850 faux prophètes, lui tout seul, face à 850 faux prophètes, au gouvernement de ce moment-là, roi et reine, et à tout le peuple qui s'était détourné du Seigneur. Et donc, il y avait une grosse pression, et finalement, Dieu a été avec lui pour démontrer qu'il avait raison, quand il a envoyé le feu du ciel pour brûler l'autel que Élie a adressé. Mais, par contre-coup, après tant d'efforts, il était en dessous de zéro. Je ne sais pas, ça arrive ça, des croyants? Ah bon? Et oui, la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Voilà, donc ça peut arriver quand on a trop tiré sur la corde, et bien, même notre physique craque, notre morale craque, et lui, il a craqué, et il passe par un moment sombre. Quand il se retrouve dans une caverne tout seul, où il dit, moi je veux mourir, j'en ai marre. Et ben, voilà, pour un croyant. Hein. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel. Et il dit, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, heureusement. Hein. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour toi, l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, et je suis resté moi seul, et cherche à monter la vie. Voilà. L'Éternel lui dit, sors de ta caverne. Hein? Est-ce qu'il y a une caverne dans laquelle on se trouve en ce moment? Je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, pour Élie, Dieu lui dit, allez, sors. Et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Il appelle à une rencontre. Dans nos moments sombres, ben C'est le premier pas qu'il faut qu'on fasse. Dieu nous appelle à une rencontre avec lui. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et la présence de l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et pourtant, il y avait aussi une histoire de feu, hein, où le Seigneur avait envoyé un feu. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait une expérience une fois d'une manière que ça veut dire que c'est pareil tout le temps. Hein. Bon, en tout cas, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et soudain, Élie a ressenti, a pris conscience. Le Seigneur est là. Des fois, dans nos cultes, il y a des cultes très, très enjoués et enlevés. Vous l'avez remarqué, ça? Et d'autres fois, c'est tranquille, c'est calme. Mais le Seigneur est là. Et un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il était tellement bouleversé par cette présence du Seigneur. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit. Et il se tint maintenant à l'entrée de la caverne. Il sortit de la caverne. Une voix s'est fait entendre et c'était la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. La présence du Seigneur. Quand nous avons besoin, dans certains moments de notre vie, de nous approcher, de prendre du temps avec le Seigneur pour reconsidérer et être renouvelé par le sens de cette présence favorable. Et cela nous encourage, nous redonne de la force pour aller plus loin, pour combattre dans la vie qui s'ouvre devant nous. Que Dieu nous aide. Sa présence, sa voix, la reconnaître. Je termine encore par deux ou trois versets. Juste, sa présence, qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies, cette présence favorable? Elle nous apporte assurance, et elle nous comble de joie. Dans le psaume, on prend Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il nous est dit, c'est Dieu qui dit, ne crains point, car je suis avec toi. Jéhovah Shammah, je suis avec toi. L'Éternel est ici. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Ça, c'est une présence particulière, réservée à ceux qui marchent avec le Seigneur. Elle nous est réservée. C'est tellement bon d'être avec le Seigneur. Il y a une façon spéciale de Dieu pour nous, que le monde ne peut pas connaître, ceux qui ne choisissent pas d'être avec le Seigneur. Sa présence est notre force, et notre soutien, nous rassure, ne crains point, dit ce verset. On peut prendre le psaume 16, verset 11, où le Seigneur dit, le psalmiste dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, ta présence favorable, des délices éternelles à ta droite. Dieu a des faveurs spéciales pour nous. Alléluia. Quand on est avec lui, il y a des choses que personne ne connaît. Mais Dieu me gâte par des choses. Sa présence m'apporte de la joie. Quand nous aimons quelqu'un, sa présence nous suffit. Pour ceux qui sont amoureux. Bon. Ceux qui sont amoureux. Il y en a ici? Il y en a un. Voilà. présence me suffit, Seigneur. Je t'aime. J'ai remarqué ce matin, on s'écoute les uns les autres et on dit amen pour amener auprès du Seigneur l'unité de nos louanges. Quand il y en a un qui prie à haute voix, les autres écoutent et disent amen. Et j'ai remarqué ce matin qu'il y avait beaucoup de, parmi nos louanges, c'est un peu particulier ce matin, où beaucoup ont dit je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Voilà. Et c'est comme si ça me suffit Seigneur de répondre à ton amour par mon amour, ça me suffit. Je suis heureux d'être en ta présence, même si je n'ai pas tout ce qu'il faut, etc. On n'aime pas le Seigneur simplement par profit des bénédictions qu'il nous accorde. On l'aime pour ce qu'il est. Et c'est ça le véritable amour. Hein? Quand on, dans les vœux du mariage, là, vous savez, des fois... À l'américaine, des fois, on le voit dans les films, des fois, mais même ici en France, hein, je te serai fidèle dans la richesse, dans la pauvreté, dans la bonne santé, dans la maladie, dans ceci, dans cela. Hein. Bon, je t'aime pour ce que tu es, et pas pour ce que tu vas m'apporter ou ce que tu manques de m'apporter. Je t'aime, et c'est ça. Marcher avec le Seigneur. Il a choisi de nous accorder sa présence. Non pas parce qu'on l'a impressionné, non pas parce qu'on a gagné quelque chose par notre façon de vivre ses faveurs, mais parce qu'il nous aime. Voilà. On aura toute l'éternité à sonder son amour et ce ne sera pas suffisant. Mais si lui, il choisit comme cela de m'aimer et il m'a dit, marche avec moi, je viens pour marcher avec toi. Nous aussi, nous voulons dire cela. Quelles que soient les choses extérieures, eh bien que Dieu nous aide. Seigneur Jésus, je termine par ce verset, ces deux versets. Hein. Matthieu chapitre 1, verset 23, en pensant à Noël qui approche. Avec Jésus et Dieu qui se révèle au milieu de nous en venant marcher au milieu des hommes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jéhovah Shammah dans l'Ancien Testament se réalise en vérité avec le Nouveau Testament, avec Dieu qui vient en la personne de Jésus. Pour être avec nous d'une manière favorable. Puissions-nous l'accueillir, et si nous l'avons fait, marchons et marchons et marchons encore. Et non seulement Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur, qui se révèle plus précisément en Jésus-Christ, le Sauveur, mais Dieu le Saint-Esprit est aussi avec nous, ce Dieu extraordinairement mystérieux, en étant trinitaire et unique. Dans Jean chapitre 14, Dieu le Fils dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, Dieu le Père, et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit, Dieu l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Car il demeure en vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dieu m'accorde sa présence favorable. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à nous qui gardons ses commandements, qui marchons dans ses voies. Eh bien, que ce matin, cette révélation progressive du Seigneur dans le livre, en ajoutant des qualités à son nom. Et ce matin, nous avons vu Jéhovah Shammah, bien que cela puisse être pour nous une grande consolation, une grande joie, une grande force pour continuer plus loin le chemin
avec le Seigneur. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour ta présence favorable ce matin avec nous. Amen.